Eh bien, bonsoir à vous tous et bienvenue à cette 53e édition des Mardis d'éthique publique. C'est la première séance de l'année, presque une nouvelle série, si on peut dire, puisque vous savez que ces soirées mensuelles ont été lancées en 2008 par le père François Boëdec, qui les a animées avec beaucoup de compétences et de savoir-faire jusqu'ici, et je veux d'ailleurs l'en remercier très vivement. Une soirée nouvelle, mais dans l'esprit de ce qui a été fait jusqu'à présent, et désormais en partenariat chaque fois avec la revue Études. Vous êtes ici nombreux, l'auditorium est plein, une autre salle a été ouverte, donc nous sommes peut-être 300 ou pas loin de 400, je ne sais pas pour l'instant. Mais je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont avec nous en direct ce soir, plutôt dans le sud de la Loire, je crois, avec Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne, Poitiers, désormais Aix-en-Provence et Perpignan, je pense, sans oublier Chaville pour la région parisienne et la communauté francophone d'Athènes. Le premier mardi de chaque mois, il s'agit donc d'offrir des éléments de réflexion sur une question qui a trait à notre actualité, problèmes sociaux, politiques, économiques, internationaux, culturels. Les questions ne manquent pas, le plus souvent graves et difficiles. L'esprit de ces soirées est alors d'apporter des repères pour la réflexion et pour l'action, dans un climat d'écoute et de débat. Il n'est certes pas envisageable de tout dire, d'apporter des réponses définitives à ceux qui nous interrogent, mais du moins pouvons-nous espérer que notre propre discernement éthique et spirituel en sorte renforcé. Ce soir, nous avons retenu comme sujet les évolutions actuelles du modèle familial. Quelles questions pour la société ? C'est une question de fond, bien entendu. Il s'agit des évolutions de la famille au long des années, avec des accélérations peut-être ces derniers temps. Question de fond, mais avec des enracinements évidents dans notre actualité, qu'il s'agisse de l'ouverture du synode sur la famille à Rome, de la politique familiale de notre pays, ou des protestations qui peuvent se manifester comme dimanche dernier. Alors, ce soir, pour nous aider dans notre réflexion, je suis heureux d'accueillir nos deux invités. Sœur Véronique Margron, qui est théologienne et moraliste, ancien professeur à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, où elle fut également doyenne de la faculté de théologie. Véronique Margron, religieuse dominicaine, est actuellement responsable provincial de sa congrégation, c'est dire combien ses occupations sont nombreuses, combien il est méritoire d'avoir pu se libérer. Je la remercie d'autant. Parmi ses publications, je signalerai ses quelques titres, plusieurs fois d'ailleurs en collaboration, « Cinq éloges de l'épreuve »,« L'échec traversé »,« Fragiles existences » et bien d'autres. Et puis, Monsieur Jean-Pierre Winter, psychanalyste, cofondateur et actuel président du mouvement du coup freudien, membre de l'Interassociatif européen de psychanalyse, auteur de nombreux ouvrages, auteur aussi de plusieurs contributions et des ouvrages collectifs comme l'Encyclopédie de la famille ou Recomposer une famille, pour être dans la thématique de ce soir. Monsieur Winter, vous êtes aussi bien connu des lecteurs d'études pour avoir écrit au moins ces trois articles que je cite et qui ne sont pas sans rapport avec le sujet de ce soir. Les maternités de substitution, homoparentalité et refus du réel ou encore qu'est-ce qu'un homme? Et vous aussi, vous avez accepté de vous libérer pour cette soirée. Soyez-en remerciés. Un très grand merci à vous deux pour avoir accepté l'invitation qui vous était adressée. Vous allez intervenir maintenant pendant 20 à 25 minutes, selon le schéma habituel de ces soirées, et après quoi le débat s'engagera avec notre auditoire. Je donne la parole tout de suite à M. Winter.
bien, je vous remercie de m'avoir invité à discuter avec vous de ces questions particulièrement délicates, par les temps qui courent, et de toute façon délicates depuis toujours. Je vais y revenir tout à l'heure. Une précision pour commencer. Sachant que la psychanalyse n'est, selon moi, c'est pas l'avis de tous les psychanalystes, mais c'est le mien, n'est selon moi ni une anthropologie, ni une sociologie, ni une doctrine politique, encore moins une théologie, bien que il n'y a pas de théorie psychanalytique sans référence à la théologie. La première difficulté que je rencontre dans la situation qui est la mienne aujourd'hui, c'est de parvenir à faire entendre et à faire reconnaître, sans savoir bien sûr ce qui pourra bien advenir de ce que je vais dire, la voix singulière et le point de vue absolument spécifique du psychanalyste. Le psychanalyste est en effet celui qui, pour parler d'un certain nombre de questions, tente de s'appuyer sur son expérience clinique, un terme probablement discutable, qui renvoie à un fait tout à fait fondamental. Le psychanalyste, c'est celui qui se donne du temps, et même beaucoup de temps, pour savoir ce que les gens pensent, souhaitent, désirent vraiment, et pour élucider les ressorts de leurs aliénations. Beaucoup de temps, cela veut dire qu'avant qu'une opinion n'émerge et ne s'établisse à propos du désir de quelqu'un, à propos surtout de sa genèse, il peut se passer une dizaine d'années, à raison par exemple de 3 séances hebdomadaires. Il y a donc d'emblée une distinction à faire entre le savoir du psychanalyste et celui du sociologue. Il y a donc d'emblée une distinction à faire entre le temps que se donne le psychanalyste pour essayer de savoir ce que pensent les gens vraiment, et le temps du sociologue qui, la plupart du temps, mène une enquête assez rapide au cours de laquelle il demande aux gens ce qu'ils pensent et prend pour argent comptant les réponses qui lui sont faites. Ce qui le rapproche d'ailleurs assez souvent du temps médiatique. Les résultats, pour ainsi dire, de l'enquête psychanalytique ne sont donc pas comparables à l'enquête sociologique, où l'on demande aux gens « qu'est-ce que vous pensez de telle situation ? Comment voyez-vous les choses ?» Eh bien non. Soit ce type d'investigation ne nous apporte pas grand-chose d'autre que ce qu'on sait déjà, ce qui ne lui enlève ni sa pertinence ni son utilité dans l'Ik et Nunc, mais elle représente néanmoins un autre ordre que la psychanalyse qui, pour reprendre un mot de Paul Ricoeur, est une discipline du soupçon. On doit à Paul Ricoeur l'expression « maître du soupçon », expression désignant, comme on sait, aussi bien Marx, Nietzsche et Freud, et vous en trouverez, pour ceux que ça intéresse, l'explicitation dans sa préface à De l'interprétation, son essai sur Freud. Alors, quand je dis que le psychanalyste se donne du temps, j'ajouterai également que si je tiens d'emblée à insister tout de suite sur la dépendance du savoir psychanalytique à l'égard d'une expérience spécifique du temps, c'est parce que l'exercice de cette profession m'a appris que les solutions immédiates sont celles qu'on rencontre dans le rêve. Le rêve qui, comme l'idéologie, escamote le temps et ignore la contradiction. Le rêve, soit l'équivalent nocturne de l'idéologie, idéologie nocturne où tout est possible, ce que dans mon jargon j'appelle une réviologie. S'il faut donc se féliciter du caractère démocratique de l'échange des idées et des expertises, des vertus du désaccord pacifique et argumenté, il ne faudrait pas néanmoins perdre de vue qu'il peut arriver que le simple débat d'opinion ne soit pas suffisant pour désamorcer et neutraliser la dynamique hallucinatoire qui préside au rêve. On rappelle la formule de Freud, le rêve est la réalisation hallucinatoire du désir. Il se pourrait même que la démocratie soit plus particulièrement exposée aux séductions de ce déni de la loi et du temps. Il est clair en tous les cas que l'expertise proprement psychanalytique a à s'affronter à un malentendu récurrent qui est moins l'effet de la contradiction des points de vue que le symptôme d'une mésentente structurale qui tient à l'hétérogénéité de la temporalité psychanalytiquement pertinente. J'ai eu l'occasion de parler des sujets qui vont nous occuper ce soir devant la commission des lois de l'Assemblée nationale et aussi devant la commission des lois du Sénat. Mais j'en finis pour le moment avec ces préalables, non sans cependant vous citer quelques mots de Paul Valéry, qui mieux que quiconque a su faire sentir l'importance du point que je viens de soulever dans le contexte actuel. Voilà ce que disait Paul Valéry. La démocratie, autrement dit, le régime de la parole ou des effets de la parole, c'est ce qui se passe quand tout devient politique. Et politique en démocratie signifie à peu près dramatique. Tout y est relatif aux impressions d'un public. Ce sont les lois du théâtre qui s'appliquent. Simplification, illusion perpétuelle sous peine de rire et de mort. Tout pour les faits, tout dans le moment, des rôles tranchés, ce qui est difficile à entendre proscrit, ce qui est difficile à exprimer n'existe pas, ce qui demande de longs préparatifs, une attention prolongée, une mémoire exacte, l'indifférence au temps et à l'éclairage se fait impossible. Ce que ça intéresse, c'est... vous pourrez trouver ça dans le tome 2 de la Pléiade, à la page 1454. J'entre maintenant dans le vif du sujet. J'ai choisi d'axer mon propos sur des problèmes de filiation liés à l'adoption et aux procréations médicalement assistées. Ainsi d'ailleurs que, vu l'actualité, à la GPA, la grossesse ou la gestation pour autrui. De façon générale, encore une fois, c'est-à-dire sans référence spéciale à la loi du mariage pour tous et aux couples de même sexe. Comme on sait, la distinction entre procréation et engendrement ne date pas d'hier, loin s'en faut. En vérité, cela n'a jamais cessé de m'impressionner, dans la mesure où elle est dès l'origine l'une des expressions insistantes du souci juridique et moral des religions au moins monothéistes. Il est d'ailleurs tout à fait intrigant de constater que la question de la stérilité féminine est l'une des premières questions posées dans l'Ancien Testament. Pourquoi ce roman des origines? Pourquoi cette mythologie s'intéresse-t-elle ainsi d'entrée de jeu à la stérilité? Sarah est stérile. Une génération plus tard, Rebecca est stérile. La génération suivante, Rachel, est stérile. Puis trois ou quatre générations après, Hannah, la mère de Samuel, est stérile. Et ce, jusqu'au début des évangiles, lesquels commencent aussi par une stérilité, celle d'Élisabeth, femme hors d'âge, pour parler le langage biblique, finalement, comme vous le savez mieux que moi, mère de Jean-Baptiste et non du Christ, faute d'avoir cru à l'annonce de sa grossesse tardive. À cette série si significative et si insistante, il faudrait enfin ajouter un cas, celui de la virginité de Marie, virginité établie et calculée, si l'on en croit le récit biblique, par référence à la grossesse d'Élisabeth, précisément. Au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth, etc. Stérilité et virginité, ce n'est certes pas la même chose. Entre l'échec temporaire, circonstancié, et l'évitement ou le contournement, entre l'accident et le renoncement, entre la reconnaissance de la précarité et le déni, il y a un monde et même un abîme, celui qui sépare deux économies morales et symboliques, et soit dit en passant, deux religions. Dans les deux cas néanmoins, la tradition biblique révèle et pointe que la lésion de l'engendrement à la conception échappe à l'évidence instinctive et animale et s'impose bien souvent comme une butée, un carrefour anthropologique et existentiel. Dès l'origine, pour nous en tout cas, en Occident, il y a donc cette insistance religieuse à poser la question de la signification de la stérilité et des modes substitutifs d'engendrement. Comment faire lorsqu'on désire un enfant et que la nature, entre guillemets, la biologie, voire une équation métaphysique défavorable, les convictions, la croyance, bref, Dieu, ne veut pas l'accorder? Eh bien, on propose des solutions. D'abord, celles que l'état de la science et des mœurs de l'époque permet d'envisager. Puis d'autres, celles d'aujourd'hui, par exemple, les nôtres. Ces solutions, je les considère en psychanalyste, et j'y vois des mythes. Des mythes, c'est-à-dire l'équivalent collectif du fantasme. Lacan disait, le mythe, c'est la tentative de donner forme épique à ce qui s'opère de la structure. La tentative de donner forme épique à ce qui s'opère de la structure. C'est pourquoi la question que je pose, que je me pose, question ouverte, que pour l'heure je me contente simplement de poser, pourrait être ici reformulée de la manière suivante. N'y aurait-il pas lieu de rapprocher la demande contemporaine d'adoption, d'accès à des modes alternatifs de procréation et de filiation, et la mise en acte de ce que j'appellerais, n'y voyez aucune provocation, un fantasme religieux? Désirer et faire des enfants, oui, mais avec Dieu lui-même. Ève ne dit-elle pas, quand elle accouche de Caïn, qu'elle l'appelle Caïn parce que « Ishkaniti la Hadoshem, j'ai fait un enfant avec Dieu ». Avec Dieu lui-même et se débarrasser enfin d'une épreuve difficile, d'une réalité encombrante, injuste peut-être, la relation sexuelle. Mise en acte d'un fantasme religieux, gnostique peut-être même plutôt, puisqu'elle suppose les moyens de la science et obtient son aide et sa bénédiction. On y arrivera, ce n'est peut-être pas si simple, mais cela est à notre portée, on y parviendra. On y parviendra à quoi ? À se débarrasser de la sexualité pour ce qui est de la procréation. Je pourrais m'arrêter ici sur un certain nombre d'exemples, mais considérons simplement celui-ci. Deux femmes décident d'avoir un enfant ensemble. Des moyens existent aujourd'hui qui leur permettent de se passer de toute relation sexuelle pour y parvenir. Deux vierges, autrement dit, sont en situation de faire un enfant. Il y a là un fantasme de virginité qui ne fait pas obstacle à la conception. L'exemple est évidemment outré, les femmes qui ont recours à la procréation médicalement assistée n'étant évidemment pas toutes vierges, mais il n'en correspond pas moins à des situations réelles. Et je vous en donne un premier exemple, puisque je prétends m'appuyer sur ce que j'entends au quotidien, celui d'une femme, pas homosexuelle, dans un couple, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, qui, vers la quarantaine, décide, après de multiples avatars dont il n'y a pas lieu de les rapporter ici, décide d'avoir un enfant. Comme, pour des tas de raisons, ce n'est pas possible d'avoir recours à la PMA en France, elle va en Espagne, où là, ça lui est plus... c'est pour elle beaucoup plus simple. La première PMA échoue. Je vous rappelle que ça ne réussit que dans à peu près 30% des cas. Elle y retourne avec son mari pour une deuxième tentative. La deuxième tentative échoue. Et au fur et à mesure, évidemment, elle en parle pendant les séances. La troisième PMA pose des problèmes. Et les Espagnols lui font comprendre que quand même, il faudrait penser à un autre mode de procréation. Et dans le cours des associations d'idées, pendant qu'elle raconte le drame qui est le sien, je suis alerté par quelque chose que je n'avais pas entendu jusque-là, puisqu'elle ne l'avait pas dit, c'est qu'il semble que dans ce couple, depuis des années et des années, il n'y a plus de relation sexuelle. Or, quand elle est allée voir les médecins espagnols, elle s'est bien gardée de le leur dire. Elle s'est présentée comme stérile. Ça arrive beaucoup plus souvent que vous pouvez l'imaginer. Étant donné que personne ne leur posera la question, vous voulez un enfant, mais est-ce que vous avez des relations sexuelles? Alors, c'est un exemple que vous pouvez penser extrême, mais qui ne l'est pas tant que ça. Une précision s'agissant de ce fantasme de virginité dont j'ai dit la référence religieuse. Je ne mets pas spécialement en cause, évidemment, la religion chrétienne, puisqu'on le repère aussi dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et qu'il en existe aujourd'hui des expressions juives. Pensons par exemple à une récente affaire en Israël. Le procureur général de l'État d'Israël vient d'y autoriser un couple de parents à utiliser le sperme congelé de leur fils décédé pour féconder une mère porteuse afin de leur donner un petit enfant. Au-delà de l'anecdote, j'entends des sifflets, donc effectivement impressionnante, ce qui doit ici retenir notre attention, me semble-t-il, c'est que ce possible n'est possible que parce que désormais il est l'effet d'une loi. Cette possibilité est donc en voie d'institutionnalisation. Elle est en passe d'accéder à la dignité du droit. Droit d'une minorité, sans doute, mais droit tout de même, qui bouleverse le droit pour tous. Cela va donc se répéter. On le voit, si la dogmatique chrétienne s'organise explicitement autour de ce récit de virginité extraordinaire, et si par conséquent celui-ci est plus actif dans les sociétés où le travail de cette dogmatique a été durable et intense, il est également susceptible de germer ailleurs, même en dehors des aires marquées par une culture positive de sa mise en acte. Les composants élémentaires de ce fantasme existent et il suffit de l'influence du libéralisme juridique et moral, véritable cheval de Troie en la matière, pour qu'il cristallise. Ce fantasme de virginité est donc désormais général. Voyez ces autres exemples. En Allemagne, récemment, l'histoire de cette transsexuelle, une femme qui devient un homme, mais qui a néanmoins conservé ses organes reproducteurs, elle, tombe enceinte. Elle se rend à la mairie où elle désire se faire reconnaître comme père de l'enfant, alors elle vient d'en accoucher à son domicile. La loi du Land allemand concerné l'y autorise. La loi l'y autorise. C'est pour moi le point le plus important. Jusque-là, tout va pour le mieux, si on peut dire. Seulement, au moment où l'édile lui demande quel est le sexe de l'enfant, elle lui répond « Ah ça, non, je ne vous le dirai pas. Il décidera plus tard. » À quoi l'édile répond tout de même « Ah non, ça, c'est pas possible. » Il a fallu en arriver là pour que l'affaire sorte, comme on dit. Parce qu'autrement, on n'en aurait jamais rien su. Là encore, ce qui importe, c'est moins le pittoresque du récit que la prise de conscience qu'il existe dorénavant des environnements juridiques et légaux qui autorisent ce genre de péripéties. Autre exemple à l'autre bout de la chaîne, en Belgique, véritable laboratoire, comme vous le savez, de toutes ces innovations. Exactement au même moment d'ailleurs, ce transsexuel n'est pas satisfait de l'opération qui l'a transformé. Je trouve que ça n'a pas été bien fait. Parce que cette insatisfaction débouche sur une souffrance psychologique dite intolérable, ce sont les termes de la loi, elle demande à être euthanasié, et il est euthanasié, car la loi belge l'y autorise. Ça n'a rien à voir avec notre sujet immédiat, mais pensez à ce qui s'est passé encore récemment, où un prisonnier considérait que ses souffrances en tant que prisonnier étaient intolérables et demandait à s'appliquer à lui-même la peine de mort, qui est abolie. En d'autres termes, et pour conclure ce premier développement, il faut avoir bien présent à l'esprit que les propositions de loi sont toutes, les propositions et les lois en vigueur, mais dorénavant, sont tout sauf négligeables, et que même sans intention de le faire, elles sont susceptibles d'ouvrir des boulevards à des transformations anthropologiques d'une profondeur insoupçonnée, parce qu'en la matière, notre imagination est très largement en deçà de ce que la nature humaine est capable d'inventer. Je suis donc, et je crois qu'il convient d'être extrêmement précautionneux et attentif aux conséquences des décisions légales auxquelles nous sommes confrontés. J'ajoute que quand je fais état de ce genre d'exemple, souvent il m'est répondu que ce sont des anecdotes, des cas marginaux. ce qu'on ne me dit jamais quand je fais état de cas où ça se passe, disons, mieux ou bien. Ça n'est marginal et anecdotique que quand ça se passe dans des conditions, disons, au moins interrogeantes. J'en viens maintenant pour finir. J'ai jusqu'à quelle heure ? Encore une dizaine de minutes. J'en viens plus directement à la question de la filiation. Après plus de 35 ans de pratique avec des adultes et des enfants, j'en suis arrivé au point de penser que la connaissance de sa filiation est la colonne vertébrale de l'inscription d'un sujet dans la connaissance. Vous l'aurez remarqué, je ne dis pas d'emblée, en lacanien, inscription du sujet dans le symbolique, mais bien inscription d'un sujet dans la connaissance, visant par là l'accès au progrès, au procès empirique d'acquisition des savoirs constitués. Quelques mots là-dessus avant de passer à d'autres points. J'ai pu observer que les enfants qui ont très tôt acquis une bonne connaissance de leur filiation, au sens large du terme, identité du père, de la mère, des grands-parents, des oncles et tantes, ont une plus grande facilité à recevoir et à intérioriser des contenus d'enseignement. Plus ils trouvent facilement à s'inscrire dans le temps, temps humain structuré par des repères sociaux et générationnels, et plus ils sont disposés à apprendre. Lorsqu'en revanche, ils ont été exposés à des blancs ou à des trous narratifs dans la symbolisation de la filiation, quand ils ont perçu qu'on leur racontait n'importe quoi ou que le récit généalogique était bricolé, on les retrouve ces blancs, ces trous et autres doutes ou interrogations angoissés sous la forme d'un symptôme spécifique, l'incapacité à retenir quoi que ce soit et à apprendre. Ces enfants ont un esprit troué comme une passoire. Pour eux, le savoir, c'est du chinois, mais au sens de l'instrument culinaire. Sur fond d'insécurité généalogique, le savoir n'imprime pas. Il ne fait pas trace. Je pars donc de là. D'un côté, des enfants qui, d'être bien installés dans leur généalogie et leur filiation, peuvent apprendre tout et pratiquement n'importe quoi dès leur plus jeune âge. De l'autre, ceux qui, d'emblée marqués par une forme d'incertitude, de flou, voire de trahison ou de mensonge, auront tendance à présenter des symptômes affectant leur capacité d'apprentissage. À quoi il faut d'ailleurs ajouter que le flou ou le mensonge, voire la fantaisie, ne sont pas seuls en cause. Il peut aussi s'agir de pure et simple impossibilité. Comme la clinique psychanalytique, c'est déjà la clinique de soi-même, puisque vous savez qu'on ne devient psychanalyste qu'après avoir fait une longue analyse, je peux vous dire que sur ce point, mon histoire personnelle peut me servir de référence. Du côté de ma famille paternelle, mon père est le seul survivant de la Shoah. De toute sa famille nombreuse, il avait bien des frères et des sœurs, beaucoup de cousins. Il est le seul survivant. Et jusqu'à un âge avancé, jusqu'à ce que je me mette à poser des questions du fait de mon analyse, je ne savais pas même le prénom de ses parents, sans parler bien entendu des noms et prénoms de ses frères et sœurs. Je ne connaissais pas non plus leur sépulture. J'ignorais tout de leur visage et tout cela a lourdement pesé sur mon rapport à mon histoire et à mon savoir. Dans ce premier dossier, celui de l'insécurité généalogique, j'en viens maintenant à une seconde observation clinique. Lorsqu'un sujet n'est pas au clair avec sa filiation, et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans tous les cas de figure contemporains, le problème sera celui de la transmission de qui et qui pour qui. Quelle place aura dans le récit de la filiation et de la généalogie la mère porteuse, le donneur de sperme, la donneuse de gamètes, etc. etc. Où seront tous ces gens ? Seront-ils purement et simplement effacés ou ignorés ? Alors on nous dit, mais c'est faire un procès d'intention à ces braves parents ou à ces braves donneuses de gamètes ou de loueuses de ventre, que de croire qu'on ne racontera pas aux enfants la vérité sur leur histoire. Seulement, raconter la vérité sur la conception, ce n'est pas du tout la même chose que d'établir une filiation. Car le problème se posera, et se pose déjà d'emblée, se posera quand il faudra aux enfants nés dans ces conditions particulières raconter leur généalogie. C'est au moment où, je vais dire les choses autrement, le mode de procréation en soi n'est pas un traumatisme. Ça, c'est une idée médiatique du traumatisme. Du point de vue psychanalytique, un traumatisme, c'est quand au temps T1 d'un acte inhabituel viendra répondre après la puberté un acte T2 qui reprendra en charge l'acte T1 qui a été refoulé. Autrement dit, prenons l'exemple de la GPA. L'enfant qui a été abandonné à la naissance pour être confié aux parents d'intention. En soi, et les enquêtes sociologiques tendraient à le démontrer, en soi, cet enfant ne va pas plus mal qu'un autre. Jusqu'au moment où il aura affaire dans sa vie à des répétitions d'abandon. C'est-à-dire jusqu'au moment où il faudra qu'il se sépare de son ami, I, ou son ami IE, au moment où un de ses parents viendra à décéder, au moment où il aura affaire donc à des ruptures qui ne seront pas sans avoir d'écho dans son passé, c'est-à-dire d'écho sur cette partie de son histoire qui lui a peut-être été racontée, mais qui n'est écrite nulle part. Et j'insiste sur ce point, la question de l'inscription, la question de l'écriture, est une question fondamentale. Qui parmi nous n'a pas eu l'occasion, et je sais qu'ils ne sont pas nombreux, qui parmi nous n'a pas eu l'occasion de découvrir, tardivement, en ouvrant par hasard un livret de famille, par exemple, que ce qu'on lui avait raconté ne correspondait pas exactement à ce qui s'était passé. Que ce soit écrit, signe, quant à la généalogie, un récit possible des faits et non un récit possible des intentions. J'insiste sur ce point parce qu'il me paraît aujourd'hui, dans le débat actuel, particulièrement important. Alors, comme je ne veux pas dépasser mon temps et laisser la parole à Mme Margon, je vais terminer juste sur la question de la GPA. Donc, j'écourte mon texte, mais peut-être que dans le débat, on reprendra un petit peu. On nous a dit, on nous a répété, et je l'ai rappelé en début d'exposé, que... Après tout, c'est une vieille histoire, cette histoire de GPA. Que fait Sarah quand elle se sait stérile? Elle dit à Abraham, écoute, comme je ne peux pas te donner d'enfant, va voir Agar et fais-lui un enfant. Eh bien, en relisant pour la 10 000e fois ce texte, je me suis dit, la réponse... À mes angoisses sur ce sujet, elle est dans ce texte, mais pas dans une lecture frivole et légère du texte. Permettez-moi juste de vous rafraîchir la mémoire, comme il m'a été donné l'occasion de rafraîchir la mienne. C'est le chapitre 16 de Bereshit, c'est-à-dire le chapitre 16 de la Genèse. Sarai, qui n'est pas encore Sarah donc, épouse d'Abraham, et pas encore Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abraham, « Hélas, l'Éternel m'a refusé l'enfantement. Approche-toi donc de mon esclave. Peut-être par elle aurai-je un enfant. » Abraham obéit à la voix de Sarai. Sarai, épouse d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, son esclave. Il y avait 10 ans qu'Abraham demeurait au pays de Canaan. Et elle la donna à son époux Abraham pour qu'elle lui servît de femme. Il s'approcha d'Agar et elle conçut. Quand elle vit qu'elle avait conçu, sa maîtresse devint l'objet de son dédain. Je tiens le texte de la Bible en général comme un formidable recueil psychopathologique. Il s'approcha d'Agar, elle conçut. Quand elle vit qu'elle avait conçu, sa maîtresse devint l'objet de son dédain. Essayez de rapporter ça aux situations qu'on connaît aujourd'hui. Sarai dit à Abraham, « Mon injure est la tienne. Moi-même, j'ai placé mon esclave dans tes bras. » Or, elle a vu qu'elle avait conçu et je suis devenu méprisable à ses yeux. L'Éternel prononcera entre moi et toi. Abraham dit à Sarah, et voici, ton esclave est dans ta main, fais-lui ce que bon te semblera. Sarah l'humilia, et elle s'enfuit de devant elle. Un envoyé du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où veux-tu aller ? Elle répondit, je fuis de devant Sarai, ma maîtresse. L'envoyé du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'envoyé du Seigneur ajouta, je rendrai ta race très nombreuse, tellement qu'elle ne pourra être comptée. L'envoyé du Seigneur lui dit encore, te voici enceinte et près d'enfanter un fils. Tu énonceras son nom Ismaël parce que Dieu a entendu, ça vient de la racine Shema qui veut dire entendu, parce que Dieu a entendu ton affliction. Celui-ci sera un onagre, c'est-à-dire un âne sauvage, parmi les hommes. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. Mais il se maintiendra à la face de tous ses frères. Et elle proclama ainsi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, « Tu es un Dieu visible, car, dit-elle, n'ai-je pas vu ici même la trace du Dieu qui me voit ?» C'est pourquoi on appela cette source la source du vivant qui me voit. Elle se trouve entre Kadès et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham nomma son fils qu'avait enfanté Agar, Ismaël. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui enfanta Ismaël. Vous voyez qu'on est même encore scientifiquement loin du compte. Alors, je retiens juste pour finir deux choses de cette histoire telle qu'elle nous est racontée. Oui, il y a une mère porteuse. Mais vous voyez d'abord ce qu'il va en être des rapports, des relations entre les deux. Mais surtout, ce qui a échappé à tous ceux qui se réfèrent à cette histoire, c'est que la mère porteuse en question, c'est une esclave. C'est une esclave. Elle est désignée comme telle. Et ce sera le cas pour Rachel, par exemple, plus tard. C'est une affaire qui n'a lieu que dans un régime esclavagiste, qui tend à être aboli. Ce n'est donc pas une référence en la matière, comme si on disait, bah, écoutez, finalement, vous voyez, ça se fait depuis 5000 ans. Hein, si aujourd'hui on peut améliorer les choses scientifiquement, pourquoi ne le ferait-on pas ? Voilà.
Voilà, un grand merci déjà pour ces éléments de réflexion tout à fait fondamentaux et suggestifs, à la fois ce qui a trait au passage à l'institutionnalisation, la question de la loi que vous avez posée, et puis le deuxième aspect, si on peut dire, autour de la filiation, hein, cette question, le problème de qui et qui pour qui. Voilà, question essentielle, nous aurons l'occasion, je pense, de revenir sur ces aspects tout à l'heure. Je donne la parole tout de suite à Véronique Margron.
Merci. Merci. Merci Henri pour ton accueil. Merci à tous. Merci au Centre Sèvres pour cette soirée. Donc tout d'abord quelques mots plus sur l'évolution des modèles de la famille, puis quelques enjeux pour la société et pour l'Église. Alors, quelques mots sur les évolutions à très grands traits, et je me contenterai du XXe siècle, tout de même. Tout d'abord, rappelez que dans une première phase, grosso modo jusqu'aux années 50, hein, nous sommes dans une société très industrielle, et cette société industrielle fait reculer fortement la mortalité des adultes comme des enfants. On assiste à une baisse importante de la fécondité, dans ces années, qui passent grosso modo de 4,5 à 3 enfants par femme. Les mariages sont plus précoces, et on peut dire que durant toute cette période, le mariage reste au cœur du modèle familial et du modèle social. À partir de la fin des années 50, on assiste à une augmentation des divorces, à un déplacement du risque des divorces plus loin dans le temps du mariage, l'avènement de la contraception chimique, ce qu'on appellera la révolution sexuelle, la fin du baby-boom dès les années 65, la baisse du taux de fécondité, puis une augmentation des comportements de retardement, au contraire désormais, du mariage comme de la procréation. Puis enfin, des années 70 à aujourd'hui, on assiste à une montée très importante du nombre de cohabitants stables, dirons-nous, de même que du taux de procréation de ces mêmes cohabitants, puis désormais à d'autres formes de famille telles que nous en entendons parler ou que nous les connaissons, sinon tous les jours, en tout cas régulièrement. En tout cas, dès les années 90, un mariage sur trois est un remariage. Autrement dit, si la morphologie de la famille du 19e siècle et jusqu'à la moitié du 20e siècle reposait sur le mariage, on peut dire que la famille contemporaine, pourtant que ce terme ait un sens, est en profonde rupture avec cela, de par l'entrée tardive dans les mariages, l'importance du nombre de familles non mariées, les naissances hors mariage, la place de la fragilisation des liens matrimoniaux, l'importance ou la diversification des formes familiales et la chute de la fécondité. Alors, si on regarde à partir de ces gros traits, quelles sont l'évolution des fonctions remplies par la famille pour essayer de voir quelles questions ceci peut poser. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on a trois grandes fonctions économiques. La production, on est encore avant, en particulier dans le XIXe siècle, dans une société agraire. La consommation et la fonction patrimoniale. On a en même temps quatre fonctions au moins sociales. La socialisation, avec la transmission, la protection de la famille, des enfants, la solidarité intergénérationnelle et la régulation de la sexualité. Plus la fonction biologique de la procréation. Aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? On peut considérer que du sein des familles, quelle qu'en soit leur modalité, la fonction biologique de la procréation continue, y compris de façon assez diversifiée. Par contre, la fonction économique de production, la fonction patrimoniale, sont-elles en chute libre, évidemment. Reste donc, comme valeur, comme fonction, celle de la consommation. Et les familles font partie des consommateurs. Elles sont d'ailleurs les premières interrogées sur ce créneau. La fonction sociale, elle, demeure. Celle de la socialisation, de la transmission, de la protection, non sans drame, et d'une certaine manière, encore de la solidarité des générations. Mais, et c'est là l'intérêt pour nous, d'autres fonctions sont apparues. Et en particulier la fonction de l'identité, de la construction de l'identité personnelle. La requête de nombre de familles d'aujourd'hui ou de nombre de personnes vivant en famille ou désirant vivre en famille ou en couple, eh bien qu'à travers cette famille, qu'à travers ce couple, se construisent leur identité personnelle. Construction qui se fait donc avec et grâce en partie aux autres membres de la famille par un travail de reconnaissance, de consolidation de l'identité de chacun. Il y a donc un rôle de soutien identitaire, d'autant plus important que nous sommes dans des sociétés de plus en plus complexes et où il est de plus en plus difficile de se repérer chacun. Il faut donc pouvoir garantir à chacun des membres de la famille un épanouissement individuelle, pour les adultes comme pour les enfants, une connaissance de soi, une reconnaissance. Et nombre de travaux de sociologues, comme François de Singly et bien d'autres, montrent que cette fonction désormais prédomine sur toutes les autres. Donc cette fonction de construction de l'identité personnelle va prédominer, va être ce qui légitime la famille, ce qui légitime le désir de faire famille, lequel désir n'est sans doute pas moins grand qu'hier. Mais les motivations en sont bien différentes. Ce qui amène à repenser les rapports interpersonnels dans la famille. On peut dire qu'à la fois la famille contemporaine est extrêmement relationnelle. Elle se constitue peu à peu autour d'un espace privé où les liens affectifs vont avoir un rôle prépondérant. Elle est donc à la fois davantage privée, et on prend ici ses distances avec le contrôle des proches, le contrôle de la société, le contrôle du quand ira-t-on, ou que sais-je, mais en même temps, elle n'a jamais été aussi publique, cette famille, puisque la santé, l'éducation, l'intérêt supérieur de l'enfant et bien d'autres passent par l'État. Donc elle est à la fois plus privée et en même temps beaucoup plus publique qu'auparavant. En même temps, cette famille relationnelle est en même temps individualiste, car prime, en tout cas compte beaucoup, la capacité de chacun à pouvoir vivre une autonomie. Celle des parents dans leur relation de couple, dans leur vie de travail, dans leur vie affective, dans leur vie amicale, dans leurs engagements. Et bien sûr, la capacité à faire grandir ses enfants dans cette même autonomie. Elle est aussi marquée par une logique qui n'est non plus une logique tant d'appartenance, appartenance à un clan, appartenance à une famille au sens large des générations, qu'elle est beaucoup plus fondée sur une logique d'élection. On choisit avec qui on se sent bien, de la même façon qu'on choisit ses amis, et donc on va choisir avec qui on souhaite rester en relation, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout en relation avec les oncles et tantes qu'on ne veut pas voir, mais on le sera au minimum. Donc on peut à la fois respecter une forme d'interdépendance et en même temps considérer ou observer que la relation première est une relation d'élection, en tout cas vécue comme telle. Et dernier point de ces rapports interpersonnels, nous le connaissons bien, dans la famille, dans le couple, l'enfant, peut-être est-il un don, mais il est d'abord un projet. Ce qui est là aussi une mutation tout à fait considérable. Dans cette évolution du modèle de la famille, on peut observer, sinon un leurre, en tout cas une première difficulté. Cette première difficulté, c'est souvent que pour nombre de nos contemporains, la famille est considérée, la famille au sens restreint du terme, est considérée comme le lieu du cocon, comme le lieu où l'on peut enfin déposer les armes, où enfin je serai en paix, où enfin je n'ai plus à me battre comme je dois le faire à longueur de journée au travail. Et nous savons tous que ceci est un leurre, et que les conflits traversent tout autant la vie familiale que la vie professionnelle, qu'ils ne sont pas moins durs dans la vie familiale que dans la vie sociale. Nous avons donc cette tentation, moderne ou postmoderne, de considérer qu'un univers serait un univers dur par excellence, le monde social, et qu'un univers serait l'univers du repos, que serait le lieu de la famille. Ce qui est sans doute, sinon une des raisons, en tout cas une des corrélations au nombre de séparations et au nombre de séparations très proches après des mariages ou après des débuts de vie en couple. Une des questions ici posées à la société, pour autant qu'elle puisse y répondre, posée peut-être aussi à l'Église, serait de se demander comment ce mouvement inhérent à l'humain, d'avoir besoin à la fois d'être à l'extérieur de lui-même, en combat en quelque sorte, de montrer ce dont il est capable, et en même temps d'être en position de repos à d'autres moments, comment ce mouvement de balancier doit pouvoir se vivre à l'intérieur des familles comme à l'intérieur de la vie sociale. Si nous coupons les choses en deux, alors nous allons au-devant de nombre de déconvenus. Un mot enfin dans ces évolutions sur la question des rapports hommes-femmes. Simplement là pour enfoncer des portes ouvertes et rappeler combien, depuis la Seconde Guerre mondiale au moins, ces rapports se sont profondément transformés par l'accès des femmes au travail, au savoir, avec toutes les limites que ceci peut vouloir dire, surtout si on regarde sur la surface de la Terre, évidemment, et même dans nos sociétés, le développement, bien sûr, de la contraception et l'égalité juridique entre les sexes. Certains considèrent même qu'il y a une corrélation entre l'émancipation des femmes et la diversification des modèles de vie privée. Et donc que cette émancipation des femmes, le fait qu'elles ne soient plus financièrement ni affectivement assujetties de la même façon qu'elles ont pu l'être à leur mari ou à leur conjoint, est ce qui participerait de cette diversification des formes de vie privée ou de vie familiale telles que nous les connaissons aujourd'hui, jusqu'à ce que nombre de sociologues ont étudié sur, par exemple, les femmes en solo. Pour conclure ce premier point, pour en venir aux questions ou aux enjeux, il me semble que quelque chose qui frappe dans ces évolutions, c'est comment la valorisation de l'autonomie manifeste que les gens sont toujours aussi attachés à la famille, toutes les enquêtes le prouvent, mais refusent que cette famille puisse être le lieu d'un enfermement. C'est-à-dire que la vision de la famille, de vouloir faire famille, de vouloir choisir une famille, de vouloir fonder une famille, ne peut plus être corrélée, être perçue comme un enfermement, mais doit pouvoir être perçu comme le lieu d'un nouvel épanouissement pour soi-même, auquel son conjoint, d'une autre façon, ses enfants participeront, comme d'une autonomie et d'un épanouissement pour eux. Ce qui pose une autre question, qui est que le développement de ce que l'on pourrait appeler la liberté, et je pense qu'ici chacun y est attaché, va de pair avec la nécessité d'assumer cette liberté, va de pair avec la responsabilité quant à la liberté. Et la responsabilité quant à la liberté, elle, convient très très bien à une économie de marché. Très très bien, puisque plus vous êtes responsable vous-même, plus vous devez donc pouvoir vous assumer, assumer vos choix, et les assumer particulièrement financièrement. Donc plus d'une certaine façon, ce type de développement nous mène à une dépendance nouvelle, mais bien réelle, à l'économie de marché dans laquelle nous sommes. Il y aurait donc de quoi relativiser cette question de la liberté, en tout cas, au moins la mettre en relation avec cet enjeu fondamental de nos sociétés. Alors, quelles questions, à partir de là, peuvent se poser nos sociétés et peut se poser l'Église. Tout d'abord, me semble-t-il, il faudrait pouvoir redonner sens à trois dimensions de l'existence. Ces trois dimensions de l'existence sont ce que l'on pourrait appeler la dimension affective, à savoir la famille, ma famille, mes amis, mes très proches, bref, ceux qui donnent du goût à mon existence quotidienne, qui lui donnent un horizon. Première dimension. Mais il y a aussi la dimension sociale de notre existence, comment notre existence a une fécondité plus loin que notre premier cercle, à travers le travail, les engagements, la politique, que sais-je, la vie ecclésiale. Et il y a une troisième dimension, un trépied en quelque sorte, et nous marchons plutôt sur trois pieds que sur deux, qui est la question du sens donné à l'existence. Et la question du sens donné à l'existence est sans doute ce qui fait bien défaut aujourd'hui dans nos institutions et peut-être ce qui parfois peut avoir aussi bien du mal à se dire dans notre Église ou dans d'autres traditions religieuses. Et pourtant, cette question du sens, de la signification, comme de l'orientation de l'existence, est fondamentale, car nous savons tous combien aux heures de rupture de l'existence, que cette rupture vienne par une rupture amoureuse, que cette rupture vienne par un chômage, par une longue maladie, et donc où nous perdons pied, c'est le cas de le dire, quant à la reconnaissance sociale, parfois quant à la reconnaissance affective, s'il n'y a pas de troisième pied pour tenter de nous tenir encore vivants quelque temps, le temps d'espérer reconstituer un ou les deux autres, alors nous sommes vraiment très mal partis. Et je crains que nos sociétés soient très focalisées, pour ne pas dire obsédées, par les deux premiers pieds seulement. Première interrogation qui traverse toutes les questions de famille que Jean-Pierre Winter a pu évoquer, comme toutes les autres, si j'ose dire, plus simples. Deuxième interrogation, comment faire face à la précarisation des liens, en particulier à la précarisation des liens conjugaux, mais aussi à la précarisation ou à la désaffiliation des liens enfants et parents dans les circonstances telles que Jean-Pierre Winter les a évoquées tout à l'heure. Comment faire pour que ces enfants, pour que les adultes, d'une autre façon, puissent continuer de s'inscrire dans un récit dans lequel ils peuvent se reconnaître comme sujets. Précarisation accentuée, et peut-être qu'aussi ceci doit nous interroger, en tout cas nous mobiliser. Précarisation évidemment accentuée par la réalité de la précarité sociale, de la précarité économique. Troisième interrogation, la question de la place des conflits et de l'échec. Chacun de nous ici sait bien qu'il n'y a pas d'existence humaine sans conflit et qu'il y en a moins encore sans échec. On pourrait espérer ici que le christianisme soit un familier de ces problématiques et en particulier de l'échec, puisque la confession de foi, pour nous, repose sur la confession de foi en un Dieu crucifié qui, au moment de sa mort, fut rejeté de quasi tous. Et c'est pourtant là que la foi chrétienne s'est fondée. Donc nous devrions pouvoir regarder, interroger, interpréter les échecs de l'existence comme ce qui peut aussi, comme ce qui en fait partie d'abord, et comme ce qui peut aussi donner lieu à de l'avenir. et parfois à un avenir inédit, heureusement. Donc, place des échecs. Quatrième question, ou quatrième enjeu, donner du pain pour la route. Donner du pain pour la route. Autrement dit, comment les communautés humaines, comment les communautés chrétiennes peuvent-elles faire circuler des paroles qui font du bien aux uns et aux autres? Alors, les paroles qui font du bien ne sont pas des paroles mièvres, ne sont pas des paroles naïves, ne sont pas des paroles à la guimauve, qui feraient semblant de faire croire que tout va bien du moment que les gens s'aiment. Nous ne savons que trop qu'on peut très mal s'aimer, que s'il suffisait de s'aimer, il y a longtemps que ça saurait. Donc à la fois une parole qui cherche du vrai, qui le cherche avec d'autres, mais une parole qui, par pitié, consent à l'ambiguïté des histoires, de toutes les histoires, et qui a pour passion que circule du bien, que circule ce qui va faire vivre. Et j'en arrive à ma conclusion. Comment là, penser la foi? Et penser la foi dans les familles qui sont pour le meilleur et parfois pour le pire. Tout d'abord, nous le savons bien aussi, je pense, la foi n'est pas là pour guérir, mais elle est là pour sauver. Autrement dit, elle est là pour pouvoir rendre compte que du sein des histoires complexes, empêtrées, ambiguës, le désespoir n'est pas le dernier mot de l'existence. Que le trop de solitude n'est pas le dernier mot de l'existence. La foi vient donc, dans ce que j'évoquais tout à l'heure du troisième pied, du trépied, comme ce qui peut venir consolider l'existence. La rendre à un avenir, mais à la condition que cette foi passe par d'autres, bien sûr. Passe par nous. Elle ne comble pas, mais elle nous raconte. Et c'est nos histoires qu'elle raconte. Alors, il nous faut pouvoir regarder la famille comme le lieu du pire et le lieu du meilleur. Le lieu du pire, quand même, parfois. Les faux-semblants, la mauvaise naïveté qui consiste à croire que ça peut jamais arriver chez moi, ça ne peut arriver que chez les autres. Pour écouter tant et tant de personnes victimes d'inceste depuis 25 ans, j'en ai beaucoup rencontré, dont les parents sont toujours convaincus que ça ne pouvait pas arriver chez eux. Les violences et tout ce que nous en connaissons, toutes choses qui mettent bien à mal une des dimensions fondamentales de la famille, qui est justement la mise en sécurité, le fait de pouvoir aimer sans crainte, à sa juste place. Mais le meilleur aussi, et c'est bien ce meilleur dont il nous faut pouvoir rendre compte et débattre, la solidarité, qui est d'abord la solidarité de la famille humaine. Et peut-être ici, nous faut-il tenter de faire un petit lien pour sortir du strictement biologique, ou de ce qui serait trop lié au biologique, pour se rappeler que la famille, c'est d'abord la famille des hommes et des femmes, d'un temps. Sans parler de la famille que l'Église constitue. Donc la solidarité dans cette famille humaine, son souci. L'art d'aimer selon le don, comme le meilleur. L'art d'aimer selon le don, c'est-à-dire l'art d'aimer sans dévorer. L'art d'aimer sans prendre la place de l'autre. L'art d'aimer sans s'accaparer. Chemin bien compliqué. La fidélité. Mais la fidélité non comme un grand ouvrage d'art, comme les ingénieurs savent les faire aujourd'hui, Mais la fidélité comme cette traversée d'un gué, pierre après pierre. Et puis, le meilleur, c'est aussi la capacité, le lieu pour apprendre à parler et non à cogner. Et pour apprendre à parler, il faut pouvoir se situer. Et pour se situer, il faut pouvoir situer sa filiation. Apprendre à parler et même apprendre à débattre. Enfin, il me semble que ce dont il est question, c'est que nous tentions de combattre ce que seraient les forces de mort, les pouvoirs de déliaison. Et en pensant à ce soir, je pensais à un texte qui pourtant n'a pas de rapport, a priori, quoique, un peu quand même, avec la famille, qui est le relèvement de la mort de Lazare. Quand Jésus dit à Lazare, « Va, sors dehors. » Pouvoir sortir dehors, laissez-le aller, comme peut-être la bonne nouvelle que nous pouvons annoncer aux uns et aux autres en famille, laissez-le aller car il ne sera pas abandonné. Car si c'est pour l'abandonner, il peut difficilement s'en aller. Nos communautés doivent pouvoir être des lieux dans lesquels il n'y a pas d'accusation, car l'accusateur de nos frères, dit l'Apocalypse au chapitre 12, verset 10, a été jeté. Je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup Véronique pour cette analyse et sur le fond de cette analyse d'évolution dont nous sommes témoins, l'accent sur des questions très, très signifiantes qui se posent. Le fait de ne pas ignorer tout ce qui est de l'ordre de l'ambiguïté, de la complexité, de l'échec, mais à travers cela aussi repérer, discerner des chemins de vie jusqu'à, au fond, l'évocation de cette famille humaine, finalement, que l'on pourrait oublier, mais qui n'est pas forcément sans ressemblance sur bien des points avec ce que nous pouvons entendre et voir de nos familles, au sens le plus particulier du terme. Nous avons maintenant un bon temps, enfin une petite demi-heure, peut-être un peu moins, guère plus en tout cas, pour entendre des questions, pour débattre. Donc un micro va circuler, nous allons prendre... tout de suite, trois questions ici dans l'auditorium. D'abord ici dans l'auditorium, voilà monsieur devant, au milieu, au deuxième rang.
Vous avez parlé d'insécurité généalogique. Moi, je vous voudrais poser une question et vous avez notamment évoqué la famille, parents, grands-parents, oncles et tantes, cousins. Je voudrais savoir quelle différence vous faites à ce point de vue entre l'enfant issu de GPA, et si je voulais faire un peu de provoque, je dirais que celui-là, au moins génétiquement, puisque venant d'un embryon ou d'un ovule, il est plus près génétiquement de ses parents, et la différence que vous faites avec un enfant adopté.
Deuxième question, au milieu de l'auditorium, monsieur.
Bonsoir, merci beaucoup pour ces deux contributions. En prolongement un petit peu de l'exposé de Jean-Pierre Winter, et en même temps un peu en question à Véronique Margron, il y a un paramètre qui me semble n'a pas été évoqué ce soir, qui est un phénomène aujourd'hui nouveau dans les familles, c'est tout simplement leur durée d'existence. Quand on se marie à 28-29 ans et que l'on meurt à 80 ans, il y a une durée qui a quand même beaucoup plus importante qu'au siècle précédent. Si on couple ça à l'importance donnée à l'amour dans la relation conjugale et d'autre part à la durée ou au délai nécessaire pour l'émergence d'un désir ou d'une compréhension des choix qui ont été faits au moment où ils ont été faits, Jean-Pierre Winter nous disait que cela peut durer 10 ans dans le cadre d'une analyse, mais c'est vrai que je serais intéressé d'avoir votre commentaire sur l'influence de la durée qui marque les familles dans l'évolution des modèles familiaux. Merci.
Merci. Et levez bien la main. Si... Oui, oui. Écoutez, on va prendre une question de Bordeaux, au premier rang.
Une question à Bordeaux. Est-ce que la venue d'un enfant, la venue d'un enfant n'est pas plutôt une aide à redémarrer un couple plutôt que quelque chose qu'il faudrait faire sans relation sexuelle?
Vous pouvez préciser votre question parce que je ne l'ai pas comprise.
Elle vient de loin.
Alors, c'est une personne qui demande, pouvez-vous revenir sur le cas de la personne qui a consulté en Espagne parce qu'il n'y avait pas de relation sexuelle et on voyait plutôt l'enfant comme une solution à des problèmes de couple. Donc, du coup, il faudrait que vous reveniez là-dessus.
Merci. Nous allons arrêter un petit peu avec ces questions. Peut-être d'abord Jean-Pierre Winter, si on prend les questions dans l'ordre.
Ce sont trois questions qui mériteraient d'amples développements, donc vous imaginez bien que je ne vais pas le faire.
La sécurité généalogique.
Alors d'abord, sur la question de la différence entre l'enfant né de GPA et l'enfant adopté, j'en vois une fondamentale, c'est que en général, les enfants adoptés sont des enfants qui ont, du fait d'un accident de la vie, et nous sommes tous, peu ou prou, des accidentés de la vie, se sont retrouvés sans parents, et c'est-à-dire sans personne tutélaire pour leur donner l'amour et l'éducation dont ils ont besoin pour s'élever dans la vie. La GPA, ça part d'un tout autre point de vue. L'enfant n'est pas là, c'est pas un enfant qui a été abandonné, c'est un enfant qui a été programmé pour être abandonné par celle qui l'a porté. C'est tout à fait différent, et dans nombre de pays, ça se fait avec le soutien et la loi en renfort. Pourquoi c'est différent ? Parce qu'un enfant qui a été abandonné par sa mère pour des raisons, par exemple, économiques, historiques, conflictuelles, n'est pas un enfant qui n'a pas été investi pendant le temps de la grossesse. C'est un enfant désiré. C'est un enfant désiré ou pas, mais c'est un enfant qui a été suffisamment investi pour qu'il puisse venir au monde. Le cas de la GPA, me semble-t-il, sur le plan strictement clinique au sens cette fois médical du mot, se rapproche plus de ce qu'on appelle aujourd'hui, un peu trop d'ailleurs, le déni de grossesse, mais imposé. C'est-à-dire qu'une femme doit porter un enfant en sachant d'emblée qu'elle va devoir le confier à d'autres. Elle ne pourra donc pas l'investir. Et elle ne l'investira pas pour éviter que d'abord, quand elle va le donner, ce soit une trop grande souffrance pour elle, comme on voit tout simplement des gens refuser, a priori, d'entrer dans une relation d'amour avec un autre, puisqu'il est programmé que cette relation ne pourra pas durer. Et puis, pendant ce temps de la grossesse, il y a des échanges entre la mère porteuse, dite porteuse, et l'enfant. Ces échanges contribuent et sont une source importante dans la construction de l'enfant à venir. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Quant aux enfants abandonnés et adoptés, ne croyez pas que j'idéalise l'adoption. Je ne propose pas l'adoption comme un recours ou comme une solution qui serait supérieure à d'autres formes de... Mais il se trouve que c'est un mode de réparation dont chacun sait, ici comme ailleurs, qu'il ne va pas sans difficulté, qu'il est toujours conflictuel. Peut-être pas d'emblée, peut-être pas, je pourrais vous donner, mais on n'a pas le temps, des exemples, mais en tout cas, c'est pas simple. Alors déjà, l'adoption non programmée, c'est pas simple, mais l'adoption par abandon programmée, j'appelle la GPA gestation pour abandon, la gestation pour abandon qui programme la destitution de la mère posera des problèmes psychologiques, et je vais aller un peu plus loin, pas seulement à l'enfant qui sera invariablement ramené à son origine et aux questions que lui pose son origine, mais aussi à la mère. À la mère qui aura laissé tomber ce produit pour lequel elle aura prêté son ventre, et j'irai encore plus loin, mais ça aujourd'hui beaucoup de gens le répètent, aux enfants et à l'entourage de la mère. Car qu'est-ce que ça fait à des enfants, puisque les mères porteuses seront censées, dans des projets de loi plus ou moins loufoques auxquels on a affaire aujourd'hui, les mères porteuses ne seront que des mères qui ont déjà enfanté. Mais justement, elles ont déjà enfanté, donc elles ont des enfants. Ça fait quoi à un enfant de voir un enfant de 3, 4, 5 ans, 6 ans, de voir sa mère porter un enfant pendant 9 mois, hein, avec le projet de le donner à un autre? Et je ne parle pas du mari, et des oncles et des tantes, et des cousins et des cousines, etc., qui jouent un rôle extrêmement important dans ces histoires. Sur la durée du mariage, juste un mot, vous avez entendu tout à l'heure dans l'extrait de la Genèse que je vous ai lu l'âge d'Abraham et de Sarah. Donc, moi je veux bien qu'aujourd'hui on impute à la durée de vie commune que ce soit totalement insupportable. C'est souvent d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, sociologiquement, insupportable pour beaucoup de gens au bout de 2 ou 3 ans. Donc je ne suis pas sûr que la corrélation, je le dis avec un peu d'humour, mais je ne suis pas sûr que la corrélation entre la durée de vie des couples et les séparations auxquelles on a affaire aujourd'hui soit une corrélation justifiée. Ça mériterait d'être analysé de beaucoup plus près. Ça mérite une question. Et une dernière chose, donc sur la question de l'enfant qui vient réparer un couple qui est dans l'insatisfaction au moins sexuelle, c'est le cas dans beaucoup de couples. Hein, beaucoup de couples qui, au moment où ils pensent à se séparer, imaginent de faire un enfant. Mais là, le problème, c'était pas ça. Là, le problème, c'était le mensonge à eux-mêmes d'abord et aux médecins, hein, qui consistait à se faire croire qu'il serait possible d'avoir un enfant en niant, en mentant sur le fait qu'il n'avait pas de relation sexuelle. Et ce mensonge-là, si j'en ai fait état, c'est parce que on nous parle beaucoup aujourd'hui de la vérité, on va dire la vérité aux enfants, etc. Il y a une espèce de doltoïsme rampant, hein, mais c'est du doltoïsme de bazar, parce que, évidemment, Françoise Dolto n'aurait jamais souscrit à une affaire pareille. Hein, c'est n'importe quoi. Je crois qu'il est très important de se dire qu'aucune loi au monde, depuis les origines jusqu'à nos jours, aucune loi au monde n'a pu imposer, et pour cause, j'en reviens à ce que vous disiez, Madame Margon, aucune loi au monde n'a pu imposer à qui que ce soit de dire la vérité. Parce que la vérité, elle est ambiguë, elle est équivoque. On ne peut pas fonder une société sur le fait qu'on va dire aux gens « vous direz à vos enfants la vérité », alors que même dans les couples les plus traditionnels, on sait la place qu'occupent les secrets de famille. Donc, comme on ne peut pas tabler sur le fait que les gens vont dire la vérité, hein, il faut, et sur leur bonne volonté à cet égard, il faut se donner les moyens, dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, de faire que la vérité factuelle, là, simplement les faits, soient écrits quelque part pour que toute personne qui veut confronter ce qu'on lui a raconté, ce qu'il a entendu de ce qu'on lui a raconté, et les faits, pour qu'entre tout ça, il y ait suffisamment d'espace, suffisamment d'écart, pour que puisse se constituer sa propre histoire.
Véronique, sur la durée, peut-être ou...
Oui, juste un mot pour dire qu'en effet, là, un nombre tout à fait conséquent de rupture a lieu 5 ans après l'engagement. Donc on ne peut pas encore dire qu'on soit quand même dans la grande vieillesse, sauf exception. Mais en même temps, ce que vous notez est en même temps tout à fait juste, hein, mais pose à mon avis d'autres questions qui étaient sur la, votre seconde réflexion, à savoir sur la capacité que nous avons à pouvoir transformer l'amour au fil de la vie. Pas seulement transformer la passion amoureuse, ça, évidemment, mais transformer l'amour lui-même. Comment faire pour que cet amour assume les changements qui sont les nôtres, comme les changements du conjoint, comme les changements d'une autre façon de ses enfants, mais d'abord de son conjoint. Et je pense que la question, elle est d'abord là. Il y a une sorte de transformation de l'amour en courtoisie, en quelque sorte, hein, en proximité, en pudeur, en... Tout cela n'enlevant rien à l'amour, mais qualifiant autrement l'amour.
En tendresse.
En tendresse, oui, on peut espérer qu'il y en ait avant les 80 ans, mais bon, quand même. Je pense que ça, c'est une grosse question. Et je ne suis pas sûre que les couples, qu'il y ait beaucoup de lieux, y compris dans l'Église, qui accompagnent, qui puissent accompagner les gens sur toute cette durée, et donc sur toutes ces mutations. Parce qu'en fin de compte, nous nous découvrons autre que nous-mêmes. Alors, a fortiori, le partenaire, nous nous découvrons autre. Donc, il s'agit aussi de pouvoir croire que autre nous sommes devenus, et pourtant cet autre peut aussi encore être aimé de son conjoint. Donc, je crois qu'il y a un gros travail là à faire, avec tout ce que ça veut dire aussi de entre guillemets, de deuil, par rapport à des capacités antérieures que nous n'avons plus, et par rapport aussi à des formes de créativité que peut-être nous acquérons. Donc il y a une sorte de travail de réinvention en quelque sorte, hein, mais qui nécessiterait d'être soutenu, accompagné.
Ce qui est une manière de sortir de cette immédiateté, hein, cette immédiateté, enfin, voilà, dont on parle, des images... Voilà, qu'elle suscite. Nous prenons une nouvelle série de questions, peut-être vers le fond de la salle, au milieu. N'hésitez pas. Tout au fond de la salle. Ah, je crois que j'ai privé quelqu'un du micro. On reviendra après devant.
Oui, c'est une question de Perpignan.
De Perpignan.
Oui. J'ai dans ma famille, mes enfants et ma famille proche, différents cas de filiation, adoptés par insémination, etc. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par histoire de la filiation. Ce sont tous des enfants, ceux que je connais, à qui on a raconté leur histoire dans la mesure où on la connaissait. Mais ils ont vécu avec ça. Ils se sont construits avec leur identité de ce qu'ils étaient, comme leurs frères et sœurs nés de leurs parents naturellement. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par histoire de la filiation et l'importance que vous lui donnez.
D'accord, merci. Madame, donc, devant, je crois qu'elle avait demandé le micro. Non ?
Merci. Je voulais compléter ce qui vient d'être dit, mais surtout remercier M. Winter de ce qu'il a dit sur cette question de filiation. Je serais plutôt... plus proche de sa position que celle de l'interlocuteur précédent. Dans les différentes commissions où en ce moment on débat de la PMA, le gros argument des gens qui sont favorables à la PMA, c'est que ces enfants sont normaux. On nous dit qu'il n'y a aucun problème, un couple homosexuel adopte des enfants. Eh bien, les États-Unis nous disent, puisque tout vient des États-Unis, les États-Unis nous disent que ces enfants sont normaux. Or, vous avez dit très clairement qu'ils vont être bien jusqu'à la fin de l'adolescence et qu'à ce moment-là, il y aura des situations
qui, en écho, seront revécues et mal vécues. Alors, je voulais savoir si vous aviez, pour mon dossier personnel, des références ou si c'est seulement votre expérience. Parce que c'est un argument extrêmement fort dans le débat actuel.
Une troisième question.
Monsieur là-bas. Monsieur à droite.
Monsieur à droite. Ce sont les messieurs qui posent des questions, surtout, ce soir. Il n'y a pas de mal à ça.
Non, il y a une dame.
Oui, monsieur.
Oui, moi, je suis parisien, en tout cas de la proche banlieue. Et je voudrais simplement vous raconter une histoire à méditer en relation avec celle que vous nous avez fait méditer sur la Genèse. C'est un obstétricien, un gynécologue obstétricien de grand renom, qui habite dans l'est de la France, qui est un ami, et qui m'a raconté cette histoire. C'est le cas d'une jeune femme vraiment, oui, jeune, qui n'a pas encore d'enfant, qui tombe enceinte de son mari, et qui, en sortant, elle est femme de ménage, et qui, en sortant de chez elle, se fait renverser par une voiture. Elle perd non seulement son bébé, mais également son utérus, et donc elle n'a plus la possibilité d'enfanter. Cette jeune femme, bon, elle est très désespérée, comme vous l'imaginez. Il se trouve que sa patronne, chez laquelle elle va faire le ménage depuis des années, lui propose, sans argent bien sûr, une femme qui n'est pas à courir après l'argent, mais lui propose par générosité et par compassion humaine, par empathie, de lui prêter son utérus pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et cette femme va être implantée de l'ovule fécondé par le mari de cette jeune femme de ménage, son ovule à elle, et elle va lui porter son enfant. Et alors je sais un petit peu la suite, cette femme sera présentée comme, auprès de l'enfant, comme la seconde maman, comme la marraine, comme le... Voilà. Il n'y a pas eu d'argent du tout, c'est à l'inverse un petit peu de Sarah et de son esclave, puisque là finalement le rôle de l'esclave aurait été tenu plutôt par la patronne. Alors je ne me prononce pas, mais... Voilà, qu'on y réfléchisse aussi. Il y a des grandes, grandes générosités et les lois ne peuvent pas toujours répondre à toutes les situations, j'allais dire, pastorales.
Merci. Merci.
Oui, c'est une histoire tout à fait édifiante. Bien sûr que ça existe. Ce que j'interroge et ce qui me préoccupe, c'est l'effet d'une loi qui crée un marché des mères porteuses comme il en existe aux États-Unis, en Inde, en Thaïlande, on l'a appris récemment, etc. Quand la loi va autoriser que ça se passe comme ça se passe déjà maintenant, où seront les freins ? On nous parle de GPA éthique. Je trouve que c'est un oxymore. Qui va aller contrôler ? Si on fait des lois pour dire, voilà, on va encadrer les choses, les lois, si on les écrit, c'est qu'on a les moyens, on s'est donné les moyens de les faire respecter. Qui ira vérifier qu'il n'y a pas d'échange d'argent ? C'est impossible. Pas besoin d'être grand clair pour s'en apercevoir. Il existe... aux États-Unis, mais vous pouvez le vérifier sur Internet en France, des agences proposant les services de mères porteuses qui sont des étudiantes, qui d'ailleurs paradoxalement, parce que ça ne tient pas debout sur le plan génétique, des mères porteuses qui sont présentées selon leur qualité humaine, physique, etc. Jolie blonde, étudiante à Saclay, voilà, propose contre échange, en espèce sonnante et trébuchante, de porter l'enfant d'une femme privée d'utérus. Où s'arrête, où on va mettre le curseur dans cette affaire ? Alors, monsieur dit, dans ma famille, on a raconté aux enfants... leur histoire, et chacun s'en débrouille avec l'histoire qui est la sienne. Mais de toute façon, oui, monsieur, vous avez raison. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis simplement qu'on ne peut pas fonder le lien social sur des exemples aussi édifiants que celui que vous venez de rapporter ou sur celui de votre cas. Qu'est-ce que je veux dire par l'importance de l'affiliation et le récit d'affiliation, puisque je crois que c'est la question fondamentale que vous posez. Je veux dire que il faut pouvoir, dans l'existence, quand c'est possible, encore une fois, ça n'est pas toujours possible, et j'ai fait de la place tout à l'heure dans ce que je racontais, à la dimension de l'impossible. Quand c'est possible, il faut pouvoir se référer à ce que, dans la Genèse, on appelle les tolédotes, c'est-à-dire les engendrements. C'est pas pour rien qu'on tombe sur des pages absolument rasoirs, hein, où on nous dit un tel est le fils de tel autre, de tel autre, de tel autre, de tel autre, de tel autre. Et si vous prenez ne serait-ce que la généalogie de Jésus, qui est double d'ailleurs et assez paradoxale de ce point de vue-là, dans les évangiles, eh ben, on nous raconte quand même comment il arrive du roi David jusqu'à Marie, voire jusqu'à Joseph, qui pourtant n'est pas son père biologique. Donc c'est compliqué, vous voyez. Mais enfin, je n'ignore rien de la complexité de la chose et je peux vous assurer que ce sur quoi j'essaye de réfléchir globalement sur le plan de la société et de son organisation n'invalide en rien les histoires individuelles qui sont toujours complexes. Et quand quelqu'un vient me voir, je ne suis pas en train de penser à mes travaux généraux ou d'application de l'expertise, comme je disais tout à l'heure, psychanalytique. Je pense à la spécificité et à la souffrance particulière de chaque cas en particulier. Je ne juge pas, j'écoute et j'apprends. Et j'apprends justement ce qui va faire difficulté, ce qui a déjà fait difficulté et les raisons pour lesquelles la filiation vient nous dire, les récits de filiation, la complexité, l'équivoque, tout ça vient nous raconter que, comme le disait tout à l'heure Véronique Magron, vient nous raconter que l'amour, ça n'est pas suffisant. Et je dirais même que quand on dit qu'il suffit qu'un enfant ait été bien éduqué et qu'il ait été aimé par ses parents pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes, on culpabilise tous les parents qui ont aimé leurs enfants et qui les ont bien élevés et dont pourtant les enfants se retrouvent être dans les plus grandes difficultés. Donc ça ne suffit pas, il faut une armature, il faut une colonne vertébrale, il faut une référence à l'histoire, il faut, je vais même vous le dire en termes plus accentués psychanalytiquement, il faut d'une certaine manière, quand je dis il faut, ça paraît très péremptoire, mais c'est plutôt le produit de mon expérience, il est nécessaire que l'enfant puisse savoir par où est passée la voie de l'ancêtre. Et si on prive un enfant d'une partie, ce que je veux dire par là, c'est que un enfant, ce n'est pas juste la relation entre un enfant, son papa et sa maman. Moi, je ne vous parle pas du papa et de la maman. J'aurais pu d'ailleurs commencer mon exposé en disant « La famille n'est pas un concept psychanalytique. Je ne vous parle pas du papa et de la maman, comme dans la manif pour tous. Je vous parle du père et de la mère. Le père de l'enfant, ce n'est pas donné à tout le monde d'en avoir un, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ce qui importe, c'est qu'il en ait un. Et le père, il est le résultat de tous les pères qui se sont succédés pour qu'un jour un enfant ait un père. Pareil pour la mère. Dans ses réactions, dans sa façon de tenir l'enfant, dans sa façon de lui parler, dans sa façon de respirer avec lui, d'entendre sa respiration, de réagir à son corps, de réagir au moindre mouvement musculaire, elle est porteuse de tout ce que les mères ont accumulé comme savoir maternel depuis la nuit des temps. Si on coupe ça, si on dit oh ben, finalement... il pourra très bien se débrouiller sans père, sous prétexte que d'ailleurs il y a effectivement plein de gens qui se sont débrouillés dans la vie sans père, sauf qu'ils ne l'ont pas cherché, ça n'a pas été programmé, et ce n'était pas l'État qui en avait décidé, qui avait décidé que ce serait comme ça. Si on ne fait pas ça, eh bien, on peut à minima se poser la question de savoir ce qu'il adviendra, non pas dans le temps très court de l'amour et de l'éducation donnée à l'enfant, mais dans le temps beaucoup plus long de la suite des générations.
Moi, je dirais simplement un mot. Il me semble que nous sommes tous, Nous venons tous de bricolage, quoi. Et nous sommes tous faits de bricolage. Alors après, il y a des bricolages plus ou moins réussis, et encore faut-il avoir un minimum de dextérité pour bricoler. Donc il y a des limites même au bricolage. Mais penser qu'il y aurait des situations parfaites, ça, vraiment, non. Donc je pense que la question après, c'est à partir du moment où un enfant est là, il est là. Donc comment faire pour qu'en effet, avec le bricolage qui est le nôtre, comment faire pour qu'il puisse grandir au mieux, s'y retrouver, pouvoir se repérer, pouvoir nommer, y compris nommer ce qui lui manque. Et en disant cela, je ne pense pas tellement aux situations de GPA et compagnie, mais à des situations tellement, tellement communes dans nos sociétés, et pas seulement dans nos sociétés occidentales, hein, que sont les familles monoparentales, qui désormais représentent un nombre considérable des familles du monde, hein, pour ne pas ramener cela toujours à l'Europe ou à l'Occident. Donc je pense que heureusement que ces enfants peuvent grandir, heureusement qu'ils peuvent être heureux, heureusement qu'ils peuvent fonder des familles, sinon ça ferait beaucoup de gens, y compris sans doute parmi nous, en moins, déjà, qui pourraient sortir. Ça commençait sans doute par les plus vieux, comme dans l'Évangile. Donc non, heureusement qu'on peut se construire sur du bricolage. Mais la question qui est posée, et qui est particulièrement posée à la loi, c'est de ne pas en rajouter, c'est-à-dire de ne pas venir encore plus complexifier, pour ne pas dire rendre encore plus, non seulement complexifié, mais encore plus improbable, les bricolages humains que nous devons par ailleurs faire, les uns et les autres, de nos existences. Je pense que là, il y a un vrai défi du réel, en quelque sorte.
Voilà, nous arrivons au terme de cette soirée. Je sais qu'il y a d'autres questions. Une question a été posée par écrit venant de la salle voisine. Je suggérerais à la personne de venir, si j'ose dire, la poser directement à cette table. Voilà, le but de ces mardis d'été public est de nous apporter des éléments de réflexion. Il n'est pas de se substituer à nous, mais de nous aider à réfléchir avec profondeur sur ce soir un sujet dont nous sentons qu'il est grave et particulièrement porteur d'enjeux pour nos existences et pour nos sociétés. Et je voudrais vraiment remercier en notre nom à tous Véronique Margron et Jean-Pierre Winter pour l'aide qu'ils nous ont.